Dumont.
Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
Mario Dumont.
Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Cube Radio.
Bonjour tout le monde, bonne fin d'après-midi, bon lundi, merci d'être avec nous. Comment vous avez vécu votre première fin de semaine sans masque? Je pense que tout le monde a vécu ça un peu pareil, on est bien content, mais les 30 premières secondes, on était au magasin, pis on se dit, voyons, il me semble que je suis pas correct, il me semble que j'oublie quelque chose, il me semble que je fais quelque chose de pas correct, mais ça se passe assez vite. Alexandre Dubé qui est là le lundi, salut Alexandre.
Salut Mario.
Et ça arrive malheureusement une couple de fois par année, des grands procès qu'on suit, les procès sont suivis parce que les histoires sont horribles. C'est le cas de Carl Girouard, le tueur de l'Halloween à Québec, et là le jury est en train de délibérer.
Oui, c'est fait. Donc, le juge a fini de donner ses indications aujourd'hui. Les 11 jurés sont maintenant séquestrés. On a entendu, là, quoi, plusieurs témoignages au cours du dernier mois. Et essentiellement, pour ce qui est de Girouard, l'enjeu, c'est pas de savoir est-ce qu'il l'a fait ou est-ce qu'il ne l'a pas fait. Il a reconnu l'avoir fait. C'est est-ce qu'il était criminellement responsable? Est-ce qu'il distinguait le bien
et ça,
le mal?
Et ça, c'est entre les mains du jury. On se reparle plus tard.
On allait retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut, Mario.
Bonjour.
Rapport de la coroner Jeanne Kamel sur les 53 décès qui sont survenus lors de la première vague. Là, on s'entend que la majorité, 47, sont décédés au CHSLD privé Aaron. La ministre des Aînés, Marguerite Blais, est non seulement épargnée, mais la coroner juge que des 220 témoignages factuels, c'est un des témoignages les plus crédibles qu'elle a entendus. Mario, ta première réaction?
Ben, la coroner Kamel n'a pas la réputation d'être une tendre quand ça fait pas son affaire. Là. Donc,
ouais.
Sincèrement, j'ai suivi les témoignages. Il y a un bout. Je pense que Marguerite Blais a parlé du cœur. Bon, moi, je reste avec des questions. C'est-à-dire, est-ce qu'elle aurait pu poser plus de questions? Ben, on est tous mal à l'aise, parce qu'on dit après coup, c'est tellement facile, une fois que tout est arrivé, de tout mm-hmm. tordre des coudes, pis on le sait ce qui est arrivé, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est pareil comme dans le sport ou dans n'importe quoi, là, le lendemain de la game, tout le monde dit, ben, il aurait jamais dû envoyer la rondelle dans ce coin-là, tu comprends? Parce que là, on a vu ce qui est arrivé, mais.
Oui.
Là, ce qu'on avait vu, tu sais, c'est un peu comme les partis d'opposition qui posent des questions sur le manque de préparation en février avant le mois de mars de la pandémie, mais ils étaient en chambre à ce moment-là, puis ils posaient pas des questions au gouvernement. Ils étaient là, eux, en chambre, ils avaient le droit de parole, puis je les blâme pas, là, mais ils savaient pas plus ce qui s'en venait avec le gouvernement, puis ils posaient pas non plus des questions au gouvernement, acheter des masques, faites ceci, faites cela. Je pense que la coroner Kamel touche quand même des points sensibles. Le premier, ben on le sait, là, que ça faisait des décennies. Ben, y a-tu vraiment un Québécois si peu informé qu'il n'était pas au courant que les CHSLD s'est négligé au Québec depuis des années? Mm-hmm. Et ça, ça beurre également tous les gouvernements, tous les partis, incluant ceux qui étaient au gouvernement. La CAQ était au gouvernement depuis un an et demi, puis François Legault l'an et demi. Là, j'aurais dû être plus vite à embaucher du personnel, mais c'est un historique. Là. On était si bas qu'on était aux patates pilées, là, à dire, on pourrait-tu les faire pampoudre, faire des vraies patates? On était là, un bain, on était au plancher du début du commencement d'un souci de donner des soins de qualité.
Ben, non, mais Mario, c'était un peu le corridor qui amenait les personnes âgées vers la mort.
Ben,
ni plus ni moins.
Mais
là. Il n'y a à peu près aucun aîné qui passait 3 ans là.
Non, mais c'est un peu ce que c'est. Je veux dire, quand tu es admis en CHSLD, surtout ouais. depuis qu'on a réduit le nombre de places, on a baissé beaucoup le nombre de places. On a dit là, dans les années 90, là, fin deuxième moitié des années 90, on a décidé, OK, un CHSLD, ça coûte vraiment cher. Là, une personne hébergée, une place d'hébergement, ça coûte cher. Donc, c'est vraiment réservé aux personnes très, très, très malades, en lourde perte d'autonomie. On a dit pour les autres, il y a des résidences mm-hmm. intermédiaires, des ressources. Mais quand tu rentres au CHSLD, donc, par la force des choses, quand t'es en aussi piètre autonomie, ben, tu t'en vas, là, vers la fin. C'est un peu écrit dans le ciel, tu sais, c'est, t'en reste pas. D'ailleurs, les gens en CHSLD, pandémie ou pas, la plupart décèdent, là, dans les deux premières années, un grand nombre décèdent. Ceci dit.
Ouais.
On savait quand même, si c'est la fin de ta vie, je veux dire, c'est la vie en question, là. T'as été enseignant, t'as été infirmière, t'as été agriculteur, t'as travaillé pour ta société, t'as payé des impôts, ben tu devrais être traité avec un minimum de dignité, là. Tu devrais être traité correctement. Puis il te reste plus beaucoup de petits bonheurs, là. Quand t'es au CHSLD, tu vas pas souvent avoir un spectacle de musique. Fait que les petits mini bonheurs, là, c'est manger, c'est le petit confort, c'est des gens qui ont un petit peu de temps pour s'occuper de toi. C'est ça, là. Tu sais, fait quand la nourriture est dégueu, personne, tu sais, t'es barouetté, personne s'occupe de toi. Mais là, c'est que t'es... Donc, c'était ça, les CHSLD. Long préambule, c'était ça, les CHSLD. Puis là, la pandémie est rentrée là-dedans. Puis en plus, les mauvaises décisions ont été prises. Puis visiblement, notre santé publique avait pas, s'était occupé de d'autres choses, mais avait pas donné les directives sur les CHSLD. Fait que ça a été le carnage que constate la coroner Kamel. Elle a fait un autre constat que moi je fais depuis le début. Les CHSLD privés, là faut pas se mêler, là, c'est pas d'être contre le privé. Les CHSLD privés, mais privé, ce qu'on appelait, c'est même pas privé, c'est des places achetées. Le vrai mot là, c'est des places achetées. On était dans des centres qui étaient pas des CHSLD. Le gouvernement était pris au dépourvu par le manque de places. Puis il disait à des centres, je vais vous acheter des places. Ça devenait des places en CHSLD privé. Ça aurait jamais dû exister. Jamais, jamais. Ce que la coroner recommande, transformer ça en CHSLD privé conventionné, ça c'est parfait. Un CHSLD privé, propriété privée, que les normes de soins, les normes de soins infirmiers, les normes de pratique de tous les autres. T'as l'avantage du privé, ça coûte un peu moins cher, t'as un avantage sur les coûts et tout ça, t'as des gens qui s'en occupent, des directions qui s'en occupent, puis une qualité de soins. Mais les places achetées, là, ça, c'est une espèce d'entre-deux pour économiser de l'argent. Puis ça a mal tourné, mais on a un petit peu couru après. Là. Ça aurait jamais, jamais, jamais dû exister. Au départ, c'était fait temporaire. Ça, on disait, là, on est mal pris, on achète des places. Mais tu sais, il n'y a rien de plus permanent que quelque chose qui est temporaire puis qui dure année après année. Là. T'sais, tu le renouvelles un an, deux ans. Toi. Mais c'était ça, Heron. C'était pas un CHSLD, un vrai CHSLD privé conventionné. C'est une résidence privée qui est devenue avec un nombre de places achetées en CHSLD. Ça, c'était pas bon, là.
Mario, parmi les recommandations, il est question d'indépendance ou du manque d'indépendance entre le directeur de la santé publique et le gouvernement, parce que le directeur de la santé publique, c'est aussi le sous-ministre, un des sous-ministres à la santé. Et concernant les masques, elle dit, la science nous disait qu'il fallait porter le masque, mais on se rappelle du docteur Horacio Arruda qui nous disait, oui, mais ça peut nous donner un faux sentiment de sécurité. S'il n'y avait pas eu une éventuelle rupture des stocks, est-ce qu'on nous aurait dit la même chose? Elle dit, j'ai tendance à croire que non. Crois-tu qu'il devrait y avoir une plus grande indépendance entre le gouvernement et le directeur de la santé publique?
Oui, c'est un des constats. Mais on l'a vu ailleurs. Là. On l'a vu ailleurs où il y avait une indépendance, puis le gouvernement faisait pas... on pourrait prendre l'exemple ultime du docteur Fauci. Là. Lui, il avait une belle indépendance, puis Trump faisait d'autres choses, puis il se foutait de ce que le docteur... Fait, je pense pas que c'est tellement mieux non plus. Fait que, tu sais, il est où l'équilibre? Le vrai problème dans ce cas-ci, indépendant ou pas indépendant, ce qu'on comprend, c'est que le docteur Arruda a jamais sonné l'alarme, ni sur ce qu'il fallait faire, ni pour donner une directive aux gens des CHSLD, ni pour acheter. Tu sais, en février, il n'y a eu aucun ordre, aucune suggestion, aucune recommandation d'acheter du matériel, d'en mettre au moins un peu en réserve au cas où, tu sais. Fait que, à mon avis, si le docteur Arruda, je veux dire, dans sa planification, ne fait pas ça, est-ce qu'il l'aurait fait plus s'il y avait eu un peu plus d'indépendance? Ça me frappe pas, là.
Ne recommande pas non plus, alors que les partis d'opposition l'ont tellement demandé, la tenue d'une commission d'enquête publique indépendante, mais demande au gouvernement néanmoins de faire une rétrospective. On va écouter Achaud, le ministre de la Santé, lorsqu'il a légèrement pris connaissance du rapport, parce qu'il venait de sortir à ce moment-là.
Je suis pas surpris de cette recommandation-là par rapport au rôle de la santé publique, parce que ça semble s'inscrire un peu dans la ligne de ce que la commissaire à la santé avait fait dans son rapport qui a été publié au mois de janvier. Je peux vous dire que l'essentiel des recommandations sont soit déjà implantées, puis ce qui l'est pas, là, je serais bien surpris qu'on tienne pas compte exactement tout ça. Mais...
Est-ce que c'est ce que devrait faire le gouvernement, de mettre de l'avant les recommandations par la coroner Kamel?
Ben oui, si on fait ces études-là, c'est c'est sûr que c'est pour les mettre en application, mais en fait, j'espère qu'on va tirer toutes les leçons, là, qu'on va tirer toutes les leçons de la pandémie, autant pour une autre pandémie que pour la gestion générale de nos établissements de soins pour nos aînés ou nos hôpitaux eux-mêmes. J'espère qu'on va avoir appris des leçons de la pandémie. Pour ce qui est d'une commission d'enquête publique, moi, personnellement, avec les dernières qu'on a eues, là, autant la commission Bastarache, la commission Charbonneau, mon expérience, c'est quand on arrive d'un 6 à 12 derniers mois, là, tout le monde est tanné dans la population, tout le monde est plus préoccupé par la facture de la commission que par les résultats et recommandations. Ouais. Fait qu'il faut être extrêmement prudent là-dessus, dire, OK, on s'embarque, on sait-tu c'est quoi le mandat, on sait-tu c'est quoi la durée, va. Et là, quand à un moment donné, j'entendais les oppositions, il faudrait faire une commission d'enquête publique sur l'ensemble de la gestion de la pandémie, dans tout, là. La santé, les écoles, la santé publique. Là, moi, sincèrement, j'étais plus pour du tout. Je me disais, là, on s'embarque dans une commission, là. On va être rendu en 2026. Ouais. La pandémie, on y pensera même plus. Puis on va être encore en train de se demander si on aurait dû, en 2021, laisser les écoles ouvertes 2 semaines. Tu sais, il y a comme une limite à un moment donné, là. Je pense que les oppositions, là, politiquement, puis j'aurais peut-être fait pareil à leur place, ils demandent une enquête publique en sachant qu'il n'y en aura pas, parce qu'elle leur permet de dire, en sachant que le gouvernement ne cédera jamais là-dessus, puis ça leur permet de dire, ah ben là, le gouvernement nous cache quelque chose. C'est dans l'ordre des choses quand t'es dans l'opposition. Tu demandes une commission d'enquête publique, puis tu sais que tu ne l'auras pas, puis tu dis, c'est épouvantable, gars, ils ont de quoi cacher. C'est comme un peu ce qu'on appellerait au hockey le jeu de base, là.
Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
Au revoir. Alors, Alexandre, ben dans les autres nouvelles, il y a le prix de l'essence qui refuse de quitter l'actualité.
Ah oui, et qui continue de faire réagir parce que dans plusieurs régions du Québec, ça a commencé dans le Grand Montréal dimanche. Il y a eu un bond assez impressionnant d'à peu près 10 cents le litre là pour frôler les 2,15 $, 2,16 $ par endroit. Ça a fait son apparition aussi dans d'autres régions du Québec. Et là, ben, on se pose une question plusieurs, en fait. Est-ce que ça va durer encore très, très, très longtemps?
Je peux te dire que ma fille de 19 ans se la pose. Un petit auto... elle travaille en restauration, elle dit, au salaire qu'on gagne, nos salaires n'ont pas augmenté. Elle dit, on arrive devant la pompe, elle dit, c'est quoi, là?
Ah oui, écoute, sa question est très, très bonne. Puis, tu sais, de plus en plus, on voit la tendance aussi dans les dernières années. C'était quoi la grosse mode? C'était les VUS. Là, il y en a qui la trouvent pas mal moins drôle quand vient le temps de faire plein de leur VUS à 60 litres.
Je pourrais te parler d'une autre grosse mode là, qui n'est pas pour une... Toutes les personnes qui, pendant la pandémie, se sont achetées un VR, qui ont dit, pour aller en vacances, on prend plus l'avion. C'est 1 000 $ de gaz dans le VR, là.
Les bateaux, l'année passée, souviens-toi, là. Il manquait de bateaux, il n'y en avait plus. Ben là, faut le remplir, le réservoir du bateau, si on veut en faire cet été. Alors, là, tu vois. Et là, ben, il y a eu la proposition en fin de semaine une proposition qui t'a fait sourire de Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, de plafonner le prix de l'essence à 1,60 $, là. Pas très réaliste, selon toi.
Ça m'a étonné, disons. Mais non, mais je veux dire, il y a deux problèmes avec ça. Le premier problème, je veux dire, c'est quoi? Le gouvernement fixe un prix qui sort d'où? Pourquoi? Ben, l'autre affaire, c'est que, je veux dire, dans les faits, là, c'est un marché mondial. Parce que nous, on voit le prix à la pompe, là. Mais je veux dire, dans les faits, là, c'est ce qui passe, ce qui est l'instigateur du prix, là, c'est le prix du baril, que nos raffineries, nous, on a des raffineries, Valero, puis on est des raffineries, on en a au Québec, là. Mais je veux dire, si, mettons que nos raffineries disaient, bon, ben, moi, pour livrer du gaz à 1,60 $, là, faut que je connais pas leur marge, mais c'est, faut que je le sorte à 88 $ du baril, ou 86 $ du baril. Ben, le baril mondial est à 109 ou 110 ce matin, là.
Ouais.
Mais là, si moi j'offre. Tu dis, moi au Québec, mon gouvernement ne me permet pas de vendre plus cher, je vous donne 86. Ils vont dire, pas de problème. T'as pas de baril.
T'en auras pas.
On se chicanera pas, là. Comme disait ma mère, on se chicanera pas pour ça, là. T'en auras juste pas.
Mais c'est intéressant parce que la régie de l'énergie nous présentait un peu, là, quelle proportion du prix de l'essence était associée à quoi? Le coût d'acquisition, c'est 68% du prix. Les taxes, c'est 27%. Puis la marge du détaillant, c'est à peu près 5%. Ça nous aide un peu mieux à comprendre.
Ouais, parce que les gens qui pensent que c'est les stations-service qui s'emplissent les poches. Non. Je pense même qu'ici, il y a quelque chose, les stations-service, quand l'essence a descendu beaucoup dans la pandémie, c'était plus facile pour les stations-service de dire, regarde, on va se laisser. Ouais. Le monde trouve des achats pas. Il était habitué à payer 1,40 $, hein, puis on descend à 1,10 $, mettons. Bon, on va mettre une dose. Le monde ne trouvera pas ça cher. Tu sais, t'as moins de pression d'une certaine manière pour laisser une couple de cents de plus, là, tu sais, traîner sa, dire, on va ramasser une petite cent sur la table, là, que quand l'essence est très, très chère, où là, tu sais que là, les gens arrivent, là, tu sais, arrivent à la pompe,
oui.
arrivent à la pompe crinquée. Mais oui. À la question, est-ce que les pétrolières, dans le sens les pétrolières, celles qui exploitent les barils, est-ce qu'eux autres font de l'argent? Ben, ils l'impriment, l'argent. C'est pas compliqué, là. Ils en perdaient. Au cœur de la pandémie, quand les barils de pétrole est descendu pendant quelques semaines à 20 ou 30 $, ben là, ils mangeaient leur bas, ils perdaient de l'argent, c'était épouvantable. Mais à 110, à 108, 109, 110, 111, le baril jusqu'à 114, 120 ces dernières semaines, oui, ils font beaucoup d'argent.
Hier, Aramco annonçait des profits en hausse de 82%. 82%.
Mais c'est ça, c'est un prix mondial, c'est un prix du baril. Oui. Puis si tu dis moi je vais pas payer ce prix-là pour mon baril, aucun problème, on se chicanera pas, t'en auras pas, puis on va le vendre aux autres. Un petit mot vite sur l'OTAN, là, ben c'est confirmé ou ça se confirme là, par la voix des chefs de gouvernement pour la Suède et la Finlande.
Oui, ça va se faire assez rapidement. Là, on a annoncé les intentions au cours de la fin de semaine. Et bon, le Canada s'est prononcé aussi en disant on va se ranger du côté de la Finlande et de la Suède dans leur souhait de rejoindre l'OTAN.
C'est deux pays évolués, démocratiques, avec des armées solides. Oui. Ils amènent... En fait, il n'y a pas de raison de ne pas les embarquer dans l'OTAN. Là. Au contraire. Là.
Et c'est particulier parce que pendant des années, ils ont eu une espèce de neutralité là au niveau de
mais c'est eux
militaire.
Qui la souhaitaient. C'est ça la réussite de Poutine là. Il a tourné ses voisins qui pendant des décennies ont préféré la neutralité et il les a tournés contre lui qui se disent maintenant non, là, on est mieux de faire partie de l'OTAN, c'est plus sécuritaire. Alors que lui voulait éloigner l'OTAN de ses frontières. Là. C'est un résultat non espéré là, de son côté.
Oui, c'est clair.
Merci Alexandre. On se revoit plus tard.